Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Musée d'art contemporain voit grand pour sa réouverture en 2028. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 2 avril 2025 dans Le Devoir. Le Musée d'art contemporain, MAC, est déjà en train de planifier la programmation d'ouverture de son nouvel édifice, laquelle ouverture est prévue en 2028. Ce ne sont pas seulement les premiers mois qui vont être des activités d'ouverture. On va annoncer prochainement une programmation complète sur 2 ans, a révélé le directeur général Stéphane Laroche. En poste depuis 5 mois, il a accordé cette semaine au Devoir une entrevue dans les bureaux de l'institution située temporairement à la place Ville-Marie. La première année d'exposition et d'activité du nouveau MAC sera consacré entièrement aux artistes québécois. Le musée compte aussi présenter des acquisitions majeures à sa collection. Ce sont des œuvres imposantes, significatives, dont au moins la moitié sont québécoises, qui vont marquer les esprits, a précisé M. Laroche. La deuxième année de célébration mettra surtout en valeur des expositions canadiennes et internationales. Ce lancement en 2 temps concorde avec la vision du nouveau directeur général par rapport à la mission du MAC, soit de mettre en valeur les artistes d'ici tout en étant ouvert sur le monde. Collectionneur à titre personnel, M. Laroche est passionné par les musées et par l'art contemporain depuis sa jeunesse. J'ai souvenir qu'à 10 ans, mes parents m'ont amené à Paris. Mon rêve était d'aller au Louvre. J'avais cette idée des musées comme lieux qui recèlent des trésors, raconte-t-il dans son bureau où sont exposées plusieurs œuvres. Il estime que les artistes ont la capacité de nous révéler à nous-mêmes. Quand on fréquente des musées d'art contemporain, on fait face à une forme de miroir, parfois déformant, parfois grossissant. Parfois, il nous montre simplement la société telle qu'elle est en ce moment, et il nous donne aussi des paramètres pour voir l'avenir, explique-t-il avec enthousiasme. Un chantier qui avance. La reconstruction du bâtiment principal du MAC, fermé depuis 2021, commence cette semaine, la démolition partielle étant terminée. Vous allez voir apparaître dans les prochains jours la nouvelle structure d'acier qui va s'avancer davantage vers la rue Sainte-Catherine, la rue Jeanne-Mance et l'esplanade de la Place des Arts, souligne M. Laroche, très stimulé par son mandat de noircir la page blanche de ce nouvel établissement. La transformation du MAC est le 5e chantier culturel que le directeur général pilote dans sa carrière, après notamment le Palais Montcalm à Québec et la Villa Frédéric James à Percé. J'adore ça. C'est construire quelque chose de tangible, lance-t-il. Ça devient un lieu qui peut être emblématique, attractif, un pivot pour le milieu culturel. M. Laroche est convaincu que l'attente d'environ 7 ans en vaudra la peine. On va avoir le double de l'espace d'exposition, le double de l'espace d'éducation, donc plus d'œuvres et de diversité dans l'offre, dans des espaces qui vont être lumineux, magnifiques. Il ajoute que les espaces seront modulables et plus polyvalents. Une place plus importante sera aussi faite à la relève, notamment par des résidences d'artistes. À certains moments de l'année, on pourra voir des artistes en train de créer, intervenir avec le public et expliquer leur œuvre, indique le directeur. Ce dernier souhaite attirer davantage de personnes que par le passé. Le nouveau lieu sera, dans un premier temps, attractif pour les curieux. Il compte également mettre en avant des thèmes intrigants, audacieux et d'actualité. Rappelons que c'est sous la direction de M. Laroche qu'ont été présentées les expositions « Oh merde » et « Hergé à Québec » au Musée de la Civilisation. La recherche et l'innovation artistique auront également leur place, assure-t-il. Les moyens de ses ambitions. L'une des tâches de M. Laroche sera de faire en sorte que ce Musée national du Québec obtienne les moyens de ses ambitions, à l'heure où de nombreux musées déplorent la stagnation de leur financement public. Le directeur a félicité le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, pour le rehaussement du financement du Conseil des arts et des lettres du Québec annoncé en mars. Je souhaite que, dans les prochains mois et prochaines années, des gestes aussi significatifs et concrets soient faits pour les budgets du réseau muséal, a-t-il dit. En attendant la concrétisation de ces grands projets pour le MAC, le musée poursuit sa programmation à la place Ville-Marie, où se déroule l'exposition « Les gratte-ciels par la racine », regard sur le modernisme tardif jusqu'au 10 août 2025. Des collaborations sont aussi en cours avec la Galerie de l'UQAM, le Musée des beaux-arts de Montréal et la Société des arts technologiques. Dans la foulée de la fin du programme de gratuité universelle les premiers dimanches du mois, le MAC a également pris la décision d'élargir sa gratuité en tout temps au moins de 20 ans. Pour que les expositions restent accessibles à tous les visiteurs sans égard à leurs moyens financiers, ces derniers pourront aussi désormais entrer, grâce à une contribution volontaire, les jeudis soirs de 17h à 19h. C'était le Musée d'art contemporain voit grand pour sa réouverture en 2028, un texte de Roxane Liouzon, paru le 2 avril 2025 dans Le Devoir.
Les Canadiens n'auront pas besoin d'autorisation avant fin 2026 pour voyager en Europe. Un texte d'Annabelle Caillou paru le 12 mars 2025 dans Le Devoir. Les Canadiens n'auront finalement pas besoin de demander au préalable une autorisation pour visiter l'Europe en 2025. Le lancement de l'ETIAS, Système européen d'information et d'autorisation de voyage, qui devait entrer en vigueur en avril, vient d'être reporté d'une année. L'ETIAS sera opérationnel au cours du dernier trimestre de 2026. L'Union européenne communiquera la date précise du démarrage de l'ETIAS plusieurs mois avant son lancement, peut-on lire sur le site officiel de l'Union européenne, mis à jour lundi 10 mars 2025. Sur les réseaux sociaux, plusieurs Canadiens prévoyant se rendre prochainement sur le vieux continent se questionnaient justement dans les dernières semaines sur les modalités et la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure. Conçue pour renforcer la sécurité des frontières européennes, l'ETIAS devait initialement être mise en place dès 2021, mais cette étape ne cesse depuis d'être reportée. Lorsqu'elle entrera en vigueur, cette autorisation sera exigée par 30 pays membres ou en voie de l'être de l'espace Schengen. Elle permettra aux visiteurs déjà exemptés de l'obligation de visa de circuler librement dans les pays européens concernés pendant 90 jours maximum à l'intérieur d'une période de 180 jours. Cette nouvelle mesure s'appliquera aux ressortissants d'une soixantaine de pays, dont le Canada. À noter que les personnes souhaitant travailler ou étudier en Europe auront toujours besoin d'un visa. L'autorisation coûtera 7 euros, soit environ 11 dollars canadiens, et pourra être obtenue sur le site Internet et l'application mobile de l'ETIAS. Elle sera valide pour une durée de 3 ans. Les 30 pays qui exigeront l'ETIAS, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse. Déjà en application au Royaume-Uni. Rappelons par contre que les Canadiens souhaitant se rendre au Royaume-Uni doivent présenter une autorisation électronique de voyage, ETA, depuis début janvier 2025. L'ETA britannique concerne les ressortissants d'une cinquantaine de pays qui sont déjà exemptés de visa pour entrer au Royaume-Uni. Le document, qui coûte 10 livres sterling, soit environ 18 dollars canadiens, permet au titulaire de séjourner au pays pendant 6 mois maximum. Il autorise un nombre illimité de séjours sur 2 ans et il est exigé même si les voyageurs ne font que transiter par ce pays. À noter que ce type d'autorisation de voyage existe déjà pour les Européens qui souhaitent, par exemple, se rendre au Canada ou aux États-Unis. Au Canada, les visiteurs doivent obtenir l'autorisation de voyage électronique, AVE, qui coûte 7 $ canadiens et qui est valable pendant 5 ans. Aux États-Unis, le mécanisme est connu sous le nom d'Electronic System for Travel Authorization, ESTA. Le document coûte environ 28 $ canadiens et il est valide pour 2 ans. C'était « Les Canadiens n'auront pas besoin d'autorisation avant fin 2026 pour voyager en Europe », un texte d'Annabelle Caillou paru le 12 mars 2025 dans Le Devoir.
COVID-19, 5 ans après. Les leçons tirées de la crise. 5 ans après le début de la pandémie au Québec, qu'avons-nous retenu? Notre préparation en prévision d'une autre crise sanitaire est-elle meilleure? Nous avons posé ces questions à 2 chercheuses qui ont vécu cette crise de l'intérieur par le prisme de leur expertise bien différente. Marie-Pascale Pommé est professeure à l'École de santé publique et au département de médecine de famille et médecine d'urgence à l'Université de Montréal, ainsi que médecin de santé publique au Centre hospitalier universitaire de Montréal, CHUM. Caroline Quach est professeure au département de microbiologie, infectiologie et immunologie et à celui de pédiatrie de l'Université de Montréal, ainsi que microbiologiste et infectiologue à l'hôpital Sainte-Justine. Lors de l'entrevue, les 2 chercheuses avaient l'air de vétéranes qui ont participé à la même guerre et qui se comprenaient même si elles ont combattu sur des fronts différents. Bien qu'elles ne souhaitent évidemment pas revivre le chaos de la COVID, elles en gardent aussi le souvenir d'une période où les scientifiques se sont serrés les coudes pour participer à l'effort de guerre et où les silos entre disciplines sont tombés. Retour en mars 2020. Québec Science. À quel moment avez-vous réalisé le sérieux de la situation? Marie-Pascale Pommé. Il n'y a pas un moment en particulier. Je me doutais que la crise ne se limiterait pas à 2 semaines de confinement, mais sans pouvoir en prévoir la durée. Par contre, en étant en lien avec mes collègues en France, où la COVID s'est déclarée plus tôt qu'au Québec, je pouvais en anticiper l'évolution ici. Et avec des collègues américains, nous réalisions que le problème était très complexe et qu'on en aurait pour plusieurs mois. Caroline Quach. En janvier, les informations arrivant de Chine laissaient supposer que c'était une situation mineure. Mais en février, j'ai commencé à comprendre que ça irait mal. Je me suis demandé si on devait partir en semaine de relâche avec les enfants. C'est au retour que j'ai saisi l'ampleur de ce qui s'en venait, même si je ne pouvais en anticiper la durée. L'hôpital était en état d'alerte et les mesures ont été mises en place. Québec Science, comment avez-vous vécu cette crise? Commençons par les bons coups. Caroline Quach. D'abord, la mise en commun des expertises scientifiques. Les silos sont tombés. On rencontrait des collègues du même département qu'on ne connaissait pas vraiment. Plusieurs ont mis leurs projets de recherche en pause pour s'attaquer au virus, tant en épidémiologie qu'en sciences fondamentales. Marie-Pascale Pommé. J'ai moi aussi été fasciné par la mobilisation des différents centres de recherche ou encore des instituts comme l'Institut national de santé publique et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Les scientifiques planchaient pour trouver des solutions en temps réel, pour soutenir les différents réseaux et pour éclairer la prise de décisions politiques. Par exemple, c'est ainsi qu'il a été possible de modéliser l'évolution de l'épidémie afin de faire des projections. À ma connaissance, c'était une première au Québec. Caroline Quash. On a aussi pris nos propres décisions, basées sur nos réalités et nos expertises. On ne s'est pas contenté de suivre les Américains. Quand les premiers vaccins sont arrivés, en trop petite quantité, les comités fédéraux et québécois ont choisi de donner une première dose à un maximum de personnes en allongeant l'intervalle avant la deuxième dose. On s'est fait chicaner, hurler dessus par toutes sortes de gens. Mais c'était le bon choix. Marie-Pascale Pommé. La pandémie a aussi fait évoluer nos modèles de suivi de patients. Par exemple, le CHUM et l'Hôpital général juif de Montréal ont mis en place des suivis à domicile des patients atteints de la COVID qui, en temps normal, auraient été gardés en observation à l'hôpital. Grâce à ce suivi à distance, dans leur environnement familier, avec des appareils connectés et du personnel médical consacré, ces patients pouvaient en tout temps être en contact avec les équipes cliniques et venir à l'hôpital en cas d'urgence. C'était un pas vers la médecine de demain. Québec Science. Et les mauvais coups? Marie-Pascale Pommé. Le débat sur l'utilité des masques. Caroline Quash. C'est parce qu'on en manquait au début et qu'on n'osait probablement pas l'annoncer et alerter le monde. Les autorités ont donc dit que ce n'était pas utile pour garder ceux qu'on avait là où ils étaient le plus nécessaires. Marie-Pascale Pommé. Effectivement, les masques, on sait que ça marche. Et ce débat a pu nuire à la confiance du public envers les scientifiques. Vous souvenez-vous aussi d'Alerte COVID, l'application de téléphone nous indiquant si on s'était tenu proche d'une personne atteinte? Ce système n'a pas bien marché. Les gens se sentaient plus surveillés qu'aidés. L'application leur demandait de rentrer des données, mais ils n'y trouvaient rien leur permettant de mieux se protéger. Finalement, les tests rapides antigéniques se sont révélés utiles, mais cela a pris du temps. Leur déploiement s'est effectué au cours de l'automne 2021. J'étais en France en novembre 2020 et des kiosques étaient déjà accessibles dans les rues pour permettre à la population de se tester rapidement. En plus de leur rapidité par rapport aux tests PCR, ces tests permettaient à la population de se responsabiliser face à la maladie. Québec Science. Le Québec était-il prêt pour cette pandémie, en fin de compte? Caroline Quash. Non. En matière de préparation à une pandémie, on envisageait plutôt une grippe, mais la COVID, même si elle est aussi causée par un virus respiratoire, s'est révélée très différente. Une épidémie de grippe se termine rapidement, généralement en deux vagues, grâce, quand on est chanceux, à une immunité partielle acquise précédemment par la population contre les virus influenza, alors qu'avec la COVID-19, on faisait face à un tout nouveau virus. En plus, pour diverses raisons, on manquait d'équipements de protection personnelle qui n'avaient pas été remplacés après leur expiration. Toujours comme pour une grippe, on voulait s'assurer d'avoir assez de lits de soins aigus, donc on vidait les hôpitaux vers les CHSLD. Or, ceux-ci manquaient de ressources. Les CHSLD sont un milieu de vie où le personnel n'était pas équipé ni formé en prévention des infections. Les employés se raboudinaient des masques eux-mêmes. C'était insensé. Enfin, au Québec et au Canada, les réseaux de recherche contre la maladie ont été financés très rapidement. Mais ça aurait dû être fait d'avance. Pour les organiser, y inclure les chercheurs les plus aptes et leur permettre de se connaître. En période de crise, on n'a pas le temps de lancer des appels à candidature. Marie-Pascale Pommé. En ce qui concerne les ressources humaines, nous aurions pu aller chercher plus de personnes expertes dans la gestion de crises infectieuses. Nous aurions aussi pu être mieux en partenariat avec les patients et la population. Empêcher les personnes de visiter leurs proches en CHSLD, par exemple, c'était très douloureux. L'isolement est un déterminant social de la santé. Il aurait été intéressant de mieux prendre en considération les bénéfices et les risques liés aux décisions concernant certaines populations. En soutien aux établissements, j'ai proposé de rédiger un livre blanc, des pratiques inspirantes de partenariat avec les usagers et leurs proches développées en contexte de pandémie. Cet ouvrage, accessible en ligne depuis novembre 2020 et mis à jour en mars 2021, regroupe des initiatives inspirantes qui ont été développées dans le réseau et qui permettaient, d'une part, de garder une certaine humanité dans le système de santé et de services sociaux, et d'autre part, de maintenir le lien social entre les personnes. Vous écoutez COVID-19, 5 ans après, les leçons tirées de la crise. Québec Science. Peut-on comparer nos décisions à celles d'autres pays? Marie-Pascale Pommé. C'est toujours difficile, car les systèmes de santé publique et de gestion du système de santé sont différents entre pays, de même que les cultures locales. Une mesure utile pour la population d'un pays ne fonctionnera pas nécessairement pour une autre. Le plus pertinent, c'était d'examiner des idées et des interventions mises en place ailleurs et dont les effets ont été montrés, puis de s'en inspirer pour notre réalité et nos besoins. Chaque pays est amené à prendre des décisions adaptées à son contexte. Caroline Couache. Par exemple, au Québec, on a moins de lits aux soins intensifs et moins de personnel par habitant que dans d'autres régions. On courait donc plus de risques de débordement que ces régions. Nos autorités ont donc décrété des consignes qui pouvaient être plus restrictives qu'en France, par exemple, où il y a plus de médecins par habitant. Ce qu'on peut comparer, ce sont des indicateurs comme la surmortalité. Elle était plus basse là où on vaccinait les gens et là où on a appliqué des mesures de distanciation rapidement, selon une étude publiée en décembre 2024 dans BMC Global and Public Health. Québec Science. Comment évaluez-vous le travail de communication autour de la COVID, y compris celui des journalistes? Caroline Couache. Le public québécois était averti, attentif et capable de nuances. Au Québec, j'ai senti que les journalistes voulaient avant tout informer le public. Au Canada anglais, à tort ou à raison, je me sentais comme une politicienne que les journalistes voulaient prendre en défaut. Bon, j'ai quand même reçu des menaces de mort de partout. Cela dit, je me suis parfois retrouvé face à des journalistes peu expérimentés ou peu préparés avec des résultats catastrophiques. Et certains avaient tendance à toujours retourner vers les mêmes scientifiques parce que ces derniers répondaient rapidement aux questions, même si celles-ci se situaient en dehors de leur champ d'expertise. Marie-Pascale Pommé. Les journalistes ont beaucoup fait appel aux experts pendant la COVID, ce qui est un bon point, et ils ont relayé les informations efficacement. Pour ce qui est des communications gouvernementales, j'ai lu récemment un article publié à la fin 2024 dans la revue Santé publique qui analysait l'évolution de l'image de l'ancien directeur de santé publique Horacio Arruda dans les médias. L'article soulignait qu'au début, la population appréciait son côté sympathique et coloré. Mais après quelques mois, cette attitude a été perçue comme un manque de professionnalisme. Les auteurs s'interrogent aussi sur la promiscuité entre la santé publique et le politique. Caroline Couache, tout à fait. Ça a changé avec l'arrivée de Luc Boileau. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des points de presse où le directeur national de santé publique était accompagné de spécialistes en absence du politique, sans le PM ni le ministre de la Santé. Québec Science. Comment s'est passé le retour à la normale dans votre quotidien de chercheuse? Marie-Pascale Pommé. On a appris à être efficace à distance, à faire du télétravail, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais je réalise aussi que je suis en deuil de cette promiscuité entre médecins, gestionnaires, corps professionnel, patients partenaires et la recherche. Tout le monde dans le même bateau à ramer ensemble. Caroline Couache. Je m'ennuie aussi de cette communauté d'esprit. On est retombé dans nos façons de faire pré-COVID. Chacun travaille sur son truc. Je vis un genre de dépression post-adrénaline. Par contre, j'ai quand même l'impression que mes tâches sont plus multidisciplinaires qu'avant. Le concept de patient partenaire est plus mis à l'avant. Marie-Pascale Pommé. Ce concept selon lequel le patient contribue, par ses expériences et son expertise, avec le personnel médical et les scientifiques, à prendre les décisions pour améliorer les soins et la recherche est au cœur de mon travail. Sans oublier que les patients partenaires peuvent aussi accompagner d'autres personnes qui amorcent leur parcours de soins dans le système de santé. De plus en plus de politiques encouragent l'engagement de patients, que ce soit en recherche fondamentale, interventionnelle ou clinique, ainsi qu'en formation initiale et continue des professionnels de la santé et des services sociaux. Par ailleurs, le public est plus sensible aux risques liés aux infections respiratoires. C'est désormais courant de voir des personnes porter des masques, tousser dans leurs coudes ou travailler de chez elles quand elles ont des symptômes. La population est mieux conscientisée à l'importance de se protéger et de protéger les autres. Québec Science. Qu'en est-il du personnel de la santé? Caroline Quash. Il est en burn-out pandémique. Une pandémie de grippe aviaire maintenant, ça tomberait extrêmement mal. On a vraiment besoin de souffler. Marie-Pascale Pommé. Les équipes cliniques ont eu à faire face à des situations difficiles. Cela a été dur sur le mental. Obtenir du soutien n'a pas été toujours facile. Il est important de valoriser ces professions soignantes et de les rendre attractives. Le partenariat avec les patients ravive les raisons fondamentales pour lesquelles les gens ont choisi de travailler dans ce domaine. Québec Science. Une dernière recommandation pour le terrain? Caroline Quash. Pendant la pandémie, des centres comme Sainte-Justine possédaient l'expertise pour déterminer rapidement comment agir sur le terrain, tandis que certains CHSLD ou petits hôpitaux devaient attendre les directives de la santé publique ou du ministère, ce qui pouvait parfois être très long. Marie-Pascale Pommé. La mise en réseau des établissements ayant l'expertise avec d'autres moins dotés aiderait à réagir plus rapidement lors d'une prochaine pandémie. De plus, renforcer la collaboration entre les services de santé publique et les services de gestion du système de santé et de services sociaux permettrait d'améliorer les canaux de communication en temps de pandémie. Il est en effet important de bien comprendre les réalités sur le terrain pour prendre les meilleures décisions. Il est souhaitable, d'une part, de faire établir des lignes directrices générales par les autorités centrales et, d'autre part, d'accorder une certaine latitude aux équipes sur le terrain afin qu'elles puissent prendre en compte les réalités locales. C'était COVID-19, 5 ans après, les leçons tirées de la crise. Un texte de Bruno Lamollet, paru le 27 février 2025 dans Québec Science.